Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour.
Et oui, nous sommes le mardi 5 mai 2026 et vous écoutez toujours votre émission mensuelle Le Drôle de Dame sur fréquence 7, les ondes toujours décalées, différentes et pas pareilles. Alors, comme tout va bien en ce moment, on sait que la majorité des Français souffrent de l'inflation à cause de l'augmentation, on ne peut plus, exponentielle de l'énergie, dont on dépend dans la production de nombreux objets nécessaires à notre existence, dont on dépend également pour des raisons d'acheminement justement des denrées alimentaires et autres nécessités vitales. Et ces Français vont continuer de souffrir, alors même que d'autres peuples meurent aussi sous les coups de bombes, meurent de faim donc, de soif à cause des guerres. Bon, je vais m'arrêter là, en fait. Pendant ce temps-là, une poignée d'irresponsables se portent elle à merveille, comme le groupe Total Energy qui fait des profits énormes sur justement le dos de la guerre. Alors en effet, aidé par la hausse drastique des prix du pétrole, le grand pétrolier a vu son bénéfice net augmenter de 51% sur cette période en un an, pour atteindre 5,8 milliards de dollars, soit 4,96 milliards d'euros. Pas tout à fait 5. Et que fait le richissime pétrolier ? Total Energy a décidé d'augmenter le dividende de 5,9%, c'est-à-dire à 0,90 euros par action. Là, je cite, plus forte croissance de dividendes parmi les majors pétrolières, selon donc le géant français des hydrocarbures. Et que fait le gouvernement ? Le Premier ministre a dit, s'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution. Waouh, tremblez puissant, le Premier ministre vous gronde, attention. Mais ce même Premier ministre a rappelé ne pas, je le cite, « beaucoup aimer le total bashing ». De fait, les gens vont continuer de souffrir et de fait, le politique continue de nier la réalité quotidienne de millions de gens. Alors du coup, si je fais appel à cet exemple, c'est pour nous obliger justement à réinterroger le lien entre réalité, vérité et politique, et donc le rôle des médias et du journalisme dans nos sociétés contemporaines. Alors voilà, avant d'aborder cette question de la vérité dans le journalisme, et en quoi donc les médias peuvent construire un discours qui s'en éloigne, on verra ça tout à l'heure, interrompons-nous quelques instants, Daniel, aux interrogations philosophiques, puisque c'est quand même la philosophie qui va commencer à interroger la nature de la vérité. Et Daniel, justement, tu voulais nous expliquer en quelques mots les fondations antiques de la question de la vérité.
Oui, très 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 succinctement, parce que c'est une problématique très importante dans la philosophie, depuis la naissance de la philosophie. La philosophie occidentale naît véritablement avec cette interrogation fondamentale sur la vérité. Platon, dans l'allégorie de la caverne, nous présente des prisonniers enchaînés qui prennent les ombres projetées sur le mur pour la réalité elle-même. Quand l'un d'eux est libéré, et qu'il est conduit à l'extérieur de la caverne, et qu'il découvre donc le monde extérieur baigné de lumière solaire, il accède enfin à la vérité. Cette métaphore puissante suggère que la vérité existe indépendamment de nous, dans un monde d'idées éternelles et parfaites, dont notre réalité sensible ne serait qu'une pâle copie.
Eh oui, alors un petit mot de précision sur la fameuse allégorie de la caverne. Le prisonnier est détaché. Et on le conduit à l'extérieur, voilà. Il ne le fait pas naturellement parlant. Alors du coup, cette image, elle est quand même importante parce que Platon, donc, qui a toujours ce souci de chercher la vérité, il distingue clairement l'opinion de la connaissance. Et la fin de ton propos, quand tu évoques justement le terme « pâle copie », est très très importante parce que Platon considéra que là où le philosophe peut, lui, accéder à la vérité, en ce qu'il est capable justement d'argumenter, les sophistes, c'est-à-dire les orateurs, eux, ceux qui ont l'art de bien parler, comme on dit, sont des illusionnistes. Il ira même jusqu'à critiquer d'ailleurs les artistes qui prétendront faire un usage de la libre fantaisie, justement par peur de se détourner de la réalité. Donc Platon oppose la sophistique à la parole philosophique. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un philosophe comme Socrate, Socrate étant le maître de Platon, la parole est un moyen d'enquêter sur la vérité. C'est pourquoi, comme je l'ai dit à l'instant, le philosophe va chercher à convaincre par des arguments son interlocuteur au cours d'un dialogue en particulier. Tous les textes de Platon sont des dialogues. En faisant usage, bien évidemment, de la raison. Et ça, c'est fondamental. Donc, la philosophie se définira par la dialectique. C'est quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs au cours du 19e siècle, et en particulier chez Hegel. C'est un art du dialogue qui vise, donc, au moyen de questions et de réponses, à connaître ce qui est. Au contraire, la parole est pour le sophiste un instrument de pouvoir, c'est-à-dire celui d'agir sur l'autre en particulier. Et donc du coup, le sophiste va chercher à persuader en se concentrant essentiellement sur les émotions de son auditeur et en cherchant à le flatter ou au contraire à l'embarrasser à l'aide de longs et beaux discours qui témoignent de son éloquence. Bref, là où le philosophe va convaincre, le sophiste va persuader et Platon marque une réelle opposition entre les deux. Alors on pourrait légitimement quand même se poser la question de savoir si on peut convaincre sans persuader, c'est-à-dire faire usage de l'émotion, attention, faire usage de l'émotion, mais non pas pour atteindre l'autre et manipuler l'autre dans une certaine mesure, mais parce que précisément je suis, entre guillemets, habité par mes convictions. Je suis passionné par mes convictions.
Oui, le sophiste, c'est pas loin du manipulateur quand même.
C'est ça, hein? Selon Platon, ça c'est sûr. Bon, alors du coup, Daniel, est-ce qu'on peut réduire quand même la vérité à la seule adéquation aux faits? Est-ce qu'elle n'est pas en perpétuelle construction? Et du coup, si on s'intéresse au journalisme, vers quelle vérité il tend? Du coup, quel est le rôle d'un journaliste?
Alors là, c'est une grande question, journalisme et vérité. C'est l'exactitude, la véracité et l'engagement envers les faits constituent le socle de la déontologie journalistique à travers le monde. Il y a une charte qui a été signée à Munich, c'est un texte international adopté en 1971, qui établit comme premier devoir des journalistes celui de, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Fin de citation. Donc la mise en œuvre de ce devoir fondamental nécessite une vérification rigoureuse de l'information, pardon, une approche critique des sources, un équilibre dans le traitement des points de vue et une certaine transparence quant aux méthodes employées pour recueillir et diffuser l'information. Donc le respect de la vérité n'est pas seulement une exigence relevant de l'éthique et du devoir, il est également le fondement d'une information de qualité et relève de la responsabilité sociale des médias en tant qu'acteurs essentiels du débat. On les a souvent appelés quatrième pouvoir, c'est pas un hasard.
C'est pas pour rien. Hein?
Le journalisme a pour mission donc fondamentale de rechercher, de vérifier et de diffuser la vérité sur les faits d'actualité. Pour cela, il s'appuie sur la vérification des sources, recouper les informations, on connaît bien ce système-là, auprès des témoins, des documents officiels, des experts indépendants. Deuxième point, l'impartialité, présenter les faits sans parti pris, en donnant la parole à toutes les parties concernées. Troisième point, la transparence, indiquer clairement les méthodes de collecte et les limites éventuelles de l'enquête. Et quatrième point, l'éthique professionnelle, respect du droit à la vie privée, éviter la désinformation et corriger rapidement les erreurs. En résumé, la vérité journalistique, c'est une construction rigoureuse basée sur la preuve et le contrôle. Pardon. Sacré lapsus.
Ah oui.
Et le contrôle, et non pas le contraire, c'est-à-dire une simple opinion. Elle vise à informer le public de manière fiable afin de soutenir le débat démocratique. C'est très important. C'est leur rôle, normalement. Bon, toutefois, cet idéal journalistique, il est souvent trop malmené, basé sur la preuve. Il y a une espèce de brouillage des frontières entre information et opinion. une spectacularisation des événements et la tentation du sensationnalisme, pardon, qui incite certains médias à privilégier la rapidité ou la viralité au détriment de la rigueur et de la vérification.
D'accord, ok. Donc du coup, il faut bel et bien distinguer opinion et fait. Mais par contre, voilà, c'est ce que je voulais avancer, pardon. En politique, un responsable politique, il a des convictions. Et une conviction, c'est quoi ? C'est une certitude acquise, évidemment, de manière subjective. Quel est le lien, alors, entre politique et vérité ? Le politique doit convaincre ou persuader la population. Et du coup, est-ce qu'il ne peut pas transformer les faits en mensonges, décidément. Et donc, du coup, sur ces points, il y a une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt qui en parle, puisqu'elle a carrément écrit quelque chose autour, justement, de la vérité et du mensonge. Est-ce que tu peux nous évoquer les grandes lignes de sa réflexion ?
Alors, dans sa réflexion, dans un livre qui s'appelle « Vérité et politique » en 1967, donc, elle fait une distinction fondamentale entre le fait, c'est-à-dire ce qui existe indépendamment de toute interprétation, et la narration, qui est la façon dont les humains donnent sens aux faits pour agir dans le monde. C'est le premier point, donc cette distinction fondamentale. Ensuite, il y a le rôle de la politique. La politique, elle ne doit pas fabriquer la vérité, mais utiliser les faits pour débattre et décider.
C'est ce qu'on appelle un débat, justement.
Voilà, exactement. Et le deuxième point du rôle de la politique, c'est aussi de savoir que le danger, il réside quand le pouvoir transforme les faits en mensonges afin de légitimer l'action. Et ça, on en connaît des exemples. Faramini, on va en parler, parce que c'est devenu vraiment là le gros problème actuellement. Elle critique aussi le totalitarisme, c'est-à-dire qu'elle dit « Sous les régimes totalitaires, la vérité factuelle est niée ou remplacée par une vérité » entre guillemets officielle, qui sert l'idéologie. On est loin des faits.
Oui, sur ce point d'ailleurs, elle fera toute une analyse de la fabrication aussi du comportement des individus pour transformer les individus en masse. Hein, elle va introduire ce concept de masse et pour les conduire vers ce qu'elle appellera justement l'indifférence. Et c'est ça qui est dramatique.
Oui, c'est-à-dire que finalement, les gens ce qu'elle exprime aussi, c'est l'idée que les gens ne peuvent plus penser. Hein. Ils croient plus, ils peuvent plus. Il n'y a plus de moyen de développer son esprit critique.
Absolument.
Alors, le citoyen, dans tout ça, il doit distinguer les faits des récits et exercer son jugement. C'est la capacité de penser dont on vient de parler, hein, pour résister à toutes ces manipulations. La conséquence actuelle, toujours selon Arendt, c'est la perte de confiance dans les faits qui conduit à la crise de la vérité. Dans le thème de notre émission, où les discours politiques deviennent des constructions narratives sans ancrage factuel. Dans ses textes, elle reconnaît que la politique est un espace où la vérité est constamment contestée et reconfigurée, et les mensonges en politique sont quand même devenus monnaie courante. Hein. On n'a qu'à penser récemment à ce qui s'est passé en France, quand on nous a essayé de nous faire croire que la France allait être ruinée si la retraite à 60 ans passait. Voilà.
Oui,
exemple.
Oui, oui, on s'en souvient très, très, très bien. Alors du coup, Daniel, si le politique s'accommode du mensonge, il peut donc finir par nier les faits et fabriquer, entre guillemets, un discours en l'orientant vers l'émotionnel. Du coup, on dirait bien que ça ressemble à l'ère de la post-vérité, non ?
Eh oui, tout à fait. Alors ces expressions « ère post-factuelle » ou « ère post-vérité » qui est plus utilisée, accréditent l'idée d'un changement de paradigme dans la vie politique au début du XXIe siècle. Apparu aux États-Unis en 2004 et utilisé depuis de façon équivalente, ces néologismes désignent une culture politique dans laquelle les leaders politiques orientent les débats vers l'émotion, en usant abondamment d'éléments de langage et en ignorant les faits. Ces expressions décrivent les deux principales caractéristiques de cette mutation, le primat de l'émotion sur la réflexion et l'importance du changement de nature des supports d'information. Il y a une philosophe qui s'appelle Catherine Wiener qui évoque un effet pervers du numérique. À cela, on peut ajouter une théorie datant des années 90 selon laquelle les échanges sur les réseaux sociaux ont un tel effet désinhibiteur qu'ils conduisent à la généralisation de propos extrémistes.
Bien, merci beaucoup Daniel. Et j'ai envie de conclure justement avec une citation de Hannah Arendt, laquelle s'exprime en ces termes, je la cite donc, « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. » C'est vraiment fondamental, hein, chez Hannah Arendt. Ouais. Et force est de constater que pour pouvoir vivre ensemble, et donc vivre dans une république, eh bien, il faut qu'on se fasse confiance. Hein. Sinon, s'il n'y a pas de confiance, précisément, il n'y a pas de vérité possible. Et cela va engager justement des sentiments de méfiance, de peur, et donc d'invention pure et simple de faits pour justement tenter de trouver une solution. Alors précisément, et du coup je vais me tourner vers toi Muriel, hein, on va partir aux États-Unis. Allez. Et on va rapidement examiner ce qui se passe aux États-Unis. Et dans les médias américains. Alors, Daniel vient de rappeler ce qu'est la post-vérité, entre génératrice d'émotions, en quelque sorte, hein, et ignorance ou déni des faits, concept donc qui apparaît aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous confirmer, Muriel, en quoi les médias américains influencent les individus et façonnent l'opinion ? D'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, justement, sur l'arrivée des géants de la tech, comme on dit, hein ? Leur objectif est-il seulement de posséder les médias ?
Ben, les nouveaux acteurs dominants ne sont plus les télécoms, mais les oligarques de la tech. Ceux qui construisent des data centers, développent l'IA et vendent des outils de surveillance aux agences fédérales. Alors, ils achètent les médias, ils financent les rédactions et contrôlent les plateformes où les Américains s'informent, au final. Leur objectif n'est pas seulement de posséder des médias, mais de définir ce qui compte comme information et d'influencer les récits. Notamment, ils achètent un peu tout, hein, même Netflix, ça devient des grosses structures.
Bien. Donc du coup, tu es en train d'évoquer la possibilité de concentrer en fait les médias. Alors du coup, il semble que les médias traditionnels soit dépassé par justement les plateformes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste le pouvoir des plateformes et en quoi justement cela fait surgir une dépendance ?
Oui, eh bien, il n'y a que quelques plateformes. Hein. On connaît Meta, Alphabet, qui est donc Google, Amazon, Microsoft et d'autres qui contrôlent les espaces où circulent les informations. Leur modèle économique repose sur la publicité. Ce qui veut dire que plus l'utilisateur reste sur leur plateforme, plus il voit d'annonces, indépendamment de la qualité ou de la véracité du contenu. Les plateformes surpassent largement les médias traditionnels en audience. Je prends pour exemple Facebook, qui a 3,07 milliards d'utilisateurs mensuels, YouTube qui reste à 2,58 milliards, TikTok qui est à 1,9 milliard, contrairement à CNN qui est donc une des plus grandes chaînes de médias aux États-Unis à 441 millions, et le New York Times qui est un journal quand même pilier des États-Unis qui est à 297 millions. Voilà, la conséquence, c'est que les médias sont devenus dépendants des plateformes pour leur visibilité et leurs revenus. Et les résumés générés par l'IA de Google réduisent le trafic vers des sites d'information de 25%. Et plusieurs médias, par exemple Huffington Post et Business Insider, ont perdu plus de 50% de leur trafic direct. C'est énorme.
Énorme, ouais. Un petit mot sur les oligarques, leur influence, leur acquisition et leur contrôle ?
Ah ben, eux, oui, omniprésents, n'est-ce pas ? Donc, nous avons Paramount Skydance, qui est tout nouveau, qui est dirigé par David Ellison, qui lui-même est financé par la fortune de son père, Larry Ellison. Donc, vous le connaissez peut-être sous le fondateur de Oracle. Oracle qui détient aussi 15% de TikTok US, un siège au conseil d'administration et contrôle l'infrastructure des données. Des données de tous ces jeunes. L'algorithme de TikTok pour 170 millions d'Américains est désormais entraîné dans le cloud d'Oracle. Pour sa part, Jeff Bezos, donc Amazon, a racheté le Washington Post pour 250 millions de dollars, le Washington Post qui est un journal aux États-Unis, et il a renforcé ses liens politiques avec Donald Trump, notamment en finançant son investiture. Donc on y arrive, hein, les liens. Et en 2026, le Washington Post licencie 30% de sa rédaction. Surprise. Ensuite, nous avons Meta, Alphabet, Microsoft, donc Meta qui contrôle Facebook, Instagram, WhatsApp. Ensemble, près de un humain sur deux utilise une plateforme Meta. Et Alphabet qui domine la recherche, la publicité. Et puis, il y a Microsoft qui utilise les données sur LinkedIn, qui a 700 millions de membres pour affiner ses stratégies publicitaires et entraîner ses modèles d'IA.
Bref,
c'est effrayant.
Ouais. Ils ont un sacré pouvoir alors.
Ah, oui,
et,
oui.
Et le pouvoir, leur pouvoir est tel qu'ils ont réussi à agir sur des gouvernements, je crois.
Absolument. Absolument. Les géants de la tech ont déjà forcé des gouvernements à reculer. Meta a bloqué les actualités au Canada et en Australie pour éviter des lois qui les obligent à rémunérer les médias. Et Google a bloqué des sites d'information californiens lorsque l'État a tenté de taxer les géants du numérique pour financer le journalisme local.
Ouais. Et enfin, tu voulais aussi t'exprimer à propos de l'impact justement de cette concentration des médias, donc qui appartient à une petite oligarchie. Hein. Impact donc sur l'information, ou plutôt peut-être même sur la désinformation, en ce que ces médias orientent les infos, façonnent l'opinion, pour invisibiliser les minorités.
Et bien sûr, mais on le connaît, hein, on sait que moins il y a d'acteurs médiatiques, plus les communautés ayant peu de pouvoir politique ou économique perdent leur voix. La réduction du nombre de journalistes noirs, latinos ou autochtones entraîne donc, un, moins de perspectives issues de ces communautés, et puis moins de couverture sur le racisme environnemental, le logement, l'immigration, les violences policières, des récits dominants écrits par des personnes extérieures aux réalités vécues. Donc les plateformes privilégient des contenus qui génèrent colère et peur, on a la même chose ici en France, pour ceux qui amplifient donc le contenu raciste, la désinformation ciblant les électeurs noirs et latinos et la suppression des contenus militants ou communautaires. Exemple, TikTok. Après la prise de contrôle partielle par Oracle, les utilisateurs ont signalé une suppression de contenus critiques envers Trump et ICE. Pour les communautés immigrées et les organisateurs racisés, TikTok était devenu un espace d'information alternatif. Ce changement-là menace leur visibilité. Et par conséquent, il y a une dépendance économique et fragilisation des médias communautaires. Donc les médias locaux et communautaires, souvent ceux qui servent la population noire, latine, autochtone et rurale, sont les plus touchés par les baisses de financement, la dépendance aux plateformes et les blocages imposés par Meta et Google, comme on a vu tout à l'heure.
Bien.
Oui.
Ouais, comme, oui. Alors, de ce point de vue, là, quand tu viens d'évoquer justement la possibilité d'établir des récits dominants qui sont écrits par des personnes extérieures aux réalités vécues. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve bien évidemment en France. Et d'ailleurs, la France n'a rien à envier aux États-Unis sur cette question de concentration des médias, puisque 9 milliardaires possèdent plus de 90% des médias. D'ailleurs, je crois, Muriel, qu'il existe des partenariats éditoriaux entre les journaux français et américains et des influences.
Bien sûr. Donc, il y a Le Monde et le New York Times qui collaborent parfois sur des enquêtes. Les Échos, donc Arnaud, cite régulièrement le Wall Street Journal, qui est donc Murdoch, qui est énorme et mondial. Et les chaînes françaises reprennent massivement les dépêches d'agences américaines, tout comme AP, qui est donc Associated Press, et Bloomberg.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Muriel, pour ce petit tour d'horizon. Alors maintenant, je vais me tourner vers Vincent. Je crois que justement tu voulais nous parler de illustrer en fait un petit peu ce qu'on a dit avec l'exemple, un exemple précis d'un événement même qui a fait polémique, à savoir le choix d'un responsable politique, Jean-Luc Mélenchon, de faire appel justement à d'autres médias pour faire une conférence de presse.
Tout à fait. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a quelque chose qui s'est passé fin mars. Quelque chose qui est paru très discret et en fait qui était profondément politique. Lors d'une conférence de presse organisée par Jean-Luc Mélenchon, celui-ci il a fait un choix. Celui d'écarter les médias traditionnels, TF1, France 2, CNews, BFM, et de se concentrer, de donner la parole à des créateurs de contenu, des médias web, des influenceurs politiques. Et évidemment, ce choix a fait polémique et forcément, ça fait grincer. Dès le lendemain de cette conférence de presse, un reportage de France 2 au journal télévisé de 20h a été fait. Le reportage ont mis l'accent sur une scène précise, peut-être un peu déroutante. Des journalistes TikTok, des youtubeurs, des nouveaux visages de l'information. Une mise en scène jugée suspecte, presque illégitime, comme si l'information ne pouvait venir que d'en haut. Ils ont, dans tout ce reportage, interviewé des jeunes qui étaient sur cette conférence de presse, et ils ont dit, mais telle personne, ils étaient candidats sur une liste municipale pour Mélenchon, et un tel, il connaît Mélenchon, mais, et alors ?
Alors, est-ce que tu veux évoquer par là le fait qu'il pourrait donc y avoir d'autres moyens de faire passer quelque chose ? Et ça re-questionne ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que si le journaliste, pour faire son boulot de journaliste, doit s'en tenir à des faits, pour autant, aucun journaliste n'est absolument neutre, c'est-à-dire que lui-même, il va orienter sa manière de présenter les faits de telle ou telle manière. Donc du coup, tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Vincent, à savoir que l'information donc prend une autre allure, et d'abord que les journaux télévisés justement ne sont plus forcément suivis par toute une génération.
Tout à fait. La vraie question, elle est ailleurs. C'est-à-dire que qui décide que l'information devrait rester entre les mains des mêmes ? Aujourd'hui, une génération entière ne regarde plus les JT. Elle scrolle, elle swipe, elle s'informe autrement. Et dans cet espace-là, il y a des voix nouvelles. Des formats différents, moins institutionnels, plus directs, parfois imparfaits, oui, mais vivants. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris, il a annoncé récemment sa candidature à la présidentielle. Il a annoncé ça sur le JT TF1 de façon très courte. Et dans la foulée, il a enchaîné sur le média brut, web, parce qu'il sait que c'est un média qui va toucher les jeunes aujourd'hui.
D'accord, ok. Et ces nouveaux médias sont donc des relais politiques ?
Eh ben, ces nouveaux médias, ce ne sont pas juste des influenceurs qui donnent leur avis, ce sont des relais politiques puissants, tu as raison, capables de toucher des millions de jeunes que les médias traditionnels ont parfois perdu en route. Alors évidemment, ça dérange, parce que là, ça bouscule une hiérarchie installée, parce que ça échappe au code classique, parce que ça redistribue le pouvoir. Et oui, il y a des risques. Simplification des discours, bulles d'opinion, confusion entre information et divertissement. Mais soyons honnêtes, ces dérives existent aussi ailleurs. Ce que révèle cette polémique, ce n'est pas une crise de l'information, c'est une mutation. Une mutation où le journaliste n'est plus le seul intermédiaire, où le citoyen devient aussi producteur, et où la politique sort enfin des plateaux pour aller là où les gens sont vraiment. Et là, je voudrais poser la question, et si, au lieu de mépriser ces nouveaux médias, on apprenait à les comprendre ? Parce que derrière un live TikTok ou une vidéo YouTube, il y a parfois plus qu'un format léger, il y a une tentative de reconnecter la politique à celles et ceux qui s'en sont éloignés. Et ça, c'est peut-être déjà une forme d'engagement.
Bien. Et alors du coup, Vincent, si ces nouveaux médias peuvent influencer, est-ce qu'ils sont compatibles encore justement avec la démocratie, quoi ?
Eh bien en effet, la démocratie, elle ne disparaît pas. Elle change simplement de plateforme. La vraie question n'est peut-être pas « ces nouveaux médias sont-ils légitimes ?» mais plutôt « sommes-nous prêts à accepter que l'information ne nous ressemble pas ?» Je voudrais te dire quand même que c'est important de comprendre que ce qui a été compris par ces jeunes-là, c'est que aujourd'hui on a des outils comme TikTok, où on fait défiler un fil d'actualité non-stop, des courtes vidéos, et ça a un impact sur notre cerveau. Et il y a des jeunes qui se sont dit « mais en fait, si ça a un impact sur notre cerveau, au lieu de distribuer une parole bête et souvent aussi une parole souvent reprise par l'extrême droite, pourquoi on ne pourrait pas nous se dire transmettre un vrai message politique et permettre aux gens de s'intéresser, de s'éduquer, de se cultiver. Et c'est comme ça que moi, j'ai beaucoup de jeunes de mon entourage qui se sont mis à s'intéresser à la politique et à se questionner et à dire c'est peut-être important là de se bouger. Le danger est loin et proche.
Très bien. Bon, et eh bien voilà, l'heure tourne et l'émission touche à sa fin. Drôle de dame, c'est fini pour ce mois. Et donc du coup, on se retrouvera le mois prochain pour la dernière émission, et oui, déjà, de la saison. D'ici là, portez-vous bien et faisons vivre la démocratie, justement, avec HK et les saltimbanques.
Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles. Pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie. Ils ont le verbe haut et les bonnes manières. Ici Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique dans leurs plus beaux habits. Parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras, tenus par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent aux pauvres gens avalés et tout ira bien. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie.